Messi, c'est un génie.
Et c'est...
Pas vrai, c'est pas vrai. Deux fois, ça, c'est pas vrai.
Chut. Les massues, il faut pacifier, elles pèsent pas moins de 500 grammes chacune.
Et but.
Et troisième
et but.
But
d'Emmanuel Petit, qui marque à la dernière minute.
Pédalage et défonçage sont les mamelles du Tour de France, alors il se défonce car la ligne est encore loin.
Et oui, bien le bonjour en ce lundi 30 octobre 2016. Il fait toujours aussi beau sur la Normandie, le reste de la France. Nous ne sommes plus dans le rush. Les stations de service battent leur plein d'essence. C'est le café des sports, comme tous les lundis. Bonjour, Mister Damienski.
Bonjour, 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 bonjour.
Allez, on est au mois de juin, la fin de saison approchant. On va voir plus régulièrement peut-être du monde arriver dans ce café des sports pour continuer d'enrichir vos petites oreilles des résultats, de l'avenir, des projets sportifs hébroïciens, de l'aglo et pourquoi pas un peu plus loin. Le petit programme qui va bien. On va parler évidemment de la LM Basket, on va parler de hand, on va parler de rugby, on va parler de foot peut-être un peu, on va parler d'athlétisme, même si demain matin, Damienski...
dans la matinale, on reçoit le AC Athlé.
Voilà, mais grosse semaine pour le AC Athlé, avec beaucoup de belles choses à vivre pour eux. Sur cette semaine, on vous en fera part et n'hésitez pas à vous rendre du côté du stade Roger Rochard ou du complexe Jean Brouin, comme on l'appelle désormais. On entame direct avec le moins bon et puis on continuera avec le bon. Allez, le moins bon, c'est la fin de saison pour le AC Rugby avec leur équipe réserve qui était en quart de finale contre une vieille connaissance en la personne de Drancy. C'est fini. Défaite logique.
T'as failli dire amère.
Non, pas du tout, au vu du score. 31-3.
Ah bah ouais, sèche. Ouais. Tu voulais dire sèche.
Ouais, je cherchais à pas être méchant.
On a le droit d'aimer des gens, d'aimer un club et de dire défaite sèche. 31-3, généralement, c'est pas joué à un fait de match. Ça.
Ouais, non. Voilà, belle équipe, mieux organisée, plus rapide, plus puissante. Rien à redire. Si ce n'est que c'est le début d'une belle aventure pour des petits gamins du club, pour certains qui sont à peine seniors ou tout juste seniors, qui ont participé à leur première phase finale officielle.
Bah c'est cool, ouais.
C'est sympa de découvrir ce que c'est que les matchs à élimination directe pour ce groupe. On leur souhaite de ne pas...
exploser.
Ouais, de continuer à s'entraîner jusqu'à la fin de saison et de bosser dès la reprise en muscu et tout ça pour repréparer une belle année. On rappellera, l'équipe première était pas loin de se qualifier pour les phases finales, où il y a cru pendant un bon bout de temps. La réserve s'est requalifiée, ça faisait très longtemps que ça n'était pas arrivé. L'avenir leur appartient, mais il faut continuer à travailler, jeunes gens.
Oui, dans le programme, t'as oublié d'évoquer qu'on risquait d'aller parler avec un petit accent américain aussi.
Ouais, mais je préfère pas le dire tout de suite. J'ai dit que le café allait être américain aujourd'hui.
Ah, bien. Ouais.
Mais bon, on attend la saveur américaine encore. On enchaîne avec le handball. Dernier match de la saison pour Saint-Sébastien
Sport. Ouais.
Et ça a été le dernier à la maison et normalement le dernier de la saison. On rappelle l'enjeu, c'était un match à élimination presque directe. C'était le dernier match de la phase régulière, mais le vainqueur de ce match entre Saint-Sébastien et Caen Handball allait pouvoir disputer le play-off pour accéder, le match de barrage, pour accéder à la Nationale 2. Et ben ça ne sera pas pour Saint-Sébastien, ce sera pour les Rouges de Caen, emmené par un Hamdi Mizouni, joueur de l'équipe Nationale 1, qui revient il y a de quelques semaines d'une blessure au croisé, qui est en phase de reprise plus, parce que dans le même temps, l'autre équipe de Caen, l'équipe première, va jouer la montée en Pro D2. Et ce joueur avait besoin de temps de jeu après avoir été blessé. Il a fait le match, hein, 12 buts à lui seul. De l'autre côté, l'artilleur du jour, tu dois le connaître, un certain Marc Echaud, qui avec coach Momo, Marc Echaud, et on n'oubliera pas d'associer Damien Pomme-Baudresse, qui vont raccrocher, puis Pierrick Briand aussi, qui vont raccrocher après moult saisons en vert et cette accession à N3 qui a, on rappelle, hein, censé accéder seulement à la N3 cette année et se retrouver en position de jouer le barrage de N2, ce qui était plutôt inattendu. Inattendu aussi le fait que peut-être Saint-Sébastien jouera le match de barrage si Caen n'accède pas à la si Caen n'accède pas à la Pro D2, leur équipe réserve serait privée de monter. Et du coup,
ça fait beaucoup de si, mais c'est toujours une possibilité.
Mais c'est une possibilité parce que la fédération a quand même appelé hier l'entraîneur général et le président du club en lui disant « Tenez-vous prêt à jouer le match de barrage. Si la première de Caen ne monte pas en Pro D2, leur équipe B ne peut pas accéder à la Nationale 2. Donc, ce serait à vous de faire. » Alors, je ne sais pas comment coach Momo va réussir à maintenir ses mecs
grave
sous pression parce qu'il y a peut-être 15 jours, 3 semaines avant ce match-là. Et du coup, aucune certitude quant au fait de jouer un match,
tout cas, simplement. En tout cas, magnifique, on rappelle, club accédant et qui malgré tout était et à pas grand chose pour repasser un échelon l'année suivante. Fort quand même.
Voilà, on l'avait annoncé, elle est là. Bon, salut la gâche.
Salut, on est un petit peu en retard. C'est le décalage horaire, c'est le jet lag.
Oula, et puis il y a même plus que ça.
Il y a même Phil de Silva qui arrive à la tour.
Il y a du Phil.
C'est open bar aujourd'hui.
Tu nous présentes Philippe.
Alors je vous présente un très très vieil, très très vieux pote qui m'a initié à la fois aux joies du golf et aux joies du basket. Il s'appelle Timothy Redden. Right now from South Bend, Indiana.
Voilà, bonjour tout le monde. Le saveur américain est arrivé.
Voilà, le saveur américain. Vous entendez, vous n'avez même pas besoin de traduire parce qu'il parle très très bien français, le salaud. Grâce à qui? Grâce à moi, parce que je parle tellement vite qu'il a été obligé de se concentrer toute sa vie. Et donc maintenant, il est parfaitement bilingue depuis la maternelle. Voilà. Donc il a assisté au match de samedi soir. Et il va nous donner son petit œil expert
sur le. Ouais. Voilà.
On va continuer le tour de table. Ça fait longtemps. Salut la poule, ça
va? Retraité.
Bonjour.
Retraité. Ouais.
Retraité actif.
En fait. Ouais, voilà. Parce que retraité d'un côté, mais pas de l'autre.
Ouais. Très actif. Désolé du retard.
Non, mais c'est cool d'être arrivé. T'as vu le message ou pas?
Non, mais j'y étais. C'est les agents, tu vois, ça commence.
Ça commence mal, d'accord.
Donc Philippe Da Silva, quand même, parce qu'on l'a pas. Tu n'as même pas dit qui c'est, là.
On a l'impression qu'on a transmis un peu.
Le patron du Café des Sports, qui la semaine dernière a sorti une grande tirade et une ode à Philippe, qu'il saluait justement pour la retraite des parquets en tant que joueur. Voilà, Philippe Da Silva qui a porté la belle tunique hébroïcienne avec un palmarès de dingue. Et du coup, voilà, on apprenait que très certainement, il allait passer coach, qu'il avait peut-être signé. C'est paru en fait fin de semaine. On va en région parisienne, c'est ça, Philippe?
C'est ça. C'est
retour pas... à la maison?
Ah bah, je le plains.
C'est pas hébreux.
C'est pas hébreux. La rumeur a pourtant fait que.
Il y a eu des rumeurs. On va y revenir, mais il y en a pas mal de rumeurs.
J'aurais bien voulu, mais je vous en ai
quelques chose tout à l'heure.
C'est vrai. Allez, deux, trois petites infos.
On n'a pas dit où précisément à
Sergi-Pontoise.
Dans les embouteillages. Une heure et demie de route tous les jours. Tu vas en baver, mon gars.
Je suis habitué.
Tu vas en baver.
Deux, trois petites infos EAC athlétisme par rapport à ce qui va tout se passer cette semaine et on fera la part belle au basket après. Mercredi, le 7e, 8e édition du. de Athlé Quartier, compétition en réunissant les meilleurs 6e, 5e des collèges d'Evreux et de l'Aglo, organisée par le AC Athlétisme.
9e finale.
9e finale. C'est sur le stade toute la journée.
On espère que la foudre ne sera pas sur le stade. Enfin, si la foudre, ça sera Usain Bolt, on y,
mais... Ça serait bien. Non, mais chose importante, en plus, une étape a été passée avec les jeunes de Pablo Neruda, qui sont très largement associés au projet pour les 4e, 3e, sur l'action de juge-jury. Ils sont d'ailleurs nommés aux Oscars, on va dire, de l'Agence d'éducation par le sport. Ils font partie des 10 projets nationaux qui ont été retenus. Ça fait un peu écho à ce qui a été... ce qui est paru dans la presse locale, qui disait Pablo doit fermer, et puis on entend aussi des élus dire oui, mais Pablo, avec les moyens REP Plus, on fait des choses vraiment cool pour des gamins, et faut maintenir. Donc voilà, l'éternel débat qui revient, on va dire, à chaque élection de la droite au Conseil Général. Faut-il fermer Pablo Neruda? Bah, voilà. Une raison sur le terrain de ne pas le fermer, la section foot, les jeunes juges... pour le AC Athlétisme, il y a des choses qui se font, et voilà, faut le dire et l'encourager. Et deuxième,
vous savez que les journaux, généralement, quand ils relatent ces choses-là, c'est surtout un devoir d'alerte, hein, qu'ils font, parce que c'est le fait de l'exposer, justement, permet aux gens de se mobiliser davantage, et voilà, parce que sinon, une fois que la décision est prise, ben, il est trop tard, tu peux manifester, tu peux rien faire. Tandis que là, effectivement, rien n'est fait, mais le fait de simplement mettre ça en façade, ça va permettre à certaines actions comme toi de refaire, de faire en sorte que ça fonctionne. Et que l'année prochaine, il puisse y avoir une nouvelle ouverture.
Et dernière info, samedi, il y a le traditionnel meeting de haies organisé par le AC Athlétisme. Alors on espère que le temps va être un peu meilleur, avec un concours de saut en hauteur mixte où on reverra Laure Marcheron, la championne de France cadette, ressauter, c'est pour sa deuxième compétition. Et puis un concours de saut à la perche aussi. Voilà, c'est des épreuves plutôt techniques qu'on ne voit pas souvent en vrai. C'est l'occasion de venir.
Il y a même un 3000 steeple et des centimètres. Et homme et 100 mètres.
Après, il va falloir qu'on trouve un autre nom que peut-être barre horizontale. Ouais. Le concours de.
Alors, moi, j'aime bien les barres, mais. Ouais. Mais pas quoi,
vertical, toi.
Allez, on enchaîne avec un petit morceau de musique. Surprise partie du groupe Grand Blanc. Et puis après, on continue à parler, bien évidemment, du basket. We'll be right back. Ben merci Tanguy, c'était pour toi. Petit groupe de Nancy qu'on verra, qu'on découvrira à l'occasion du Festival Rock. De Metz, pardon.
Attention, le
temps. C'est des Lorrains, c'est que des Lorrains.
Ils ont que... pas mélanger les torchons et les serviettes. Hein.
Ah là là. Allez, on enchaîne basket. On refait le point.
On refait le match.
On refait vite fait les trois matchs, du coup, même.
Ah, les trois matchs, ouais.
Allez, chacun un match. Philippe, tu.
J'en ai vu deux. Non, je suis pas allé à Poitiers. Je suis pas allé à Poitiers. J'ai vu les deux premiers, comme pratiquement tout le monde ici, je pense.
Voilà. Et bah, allez, Philippe, tu commences.
L'autre Philippe. Le spécialiste.
Allez, commence.
Le professionnel.
De toute manière, la hiérarchie est respectée. Je pense qu'effectivement, sur le premier match, vu l'entame d'Evreux en termes de concentration, en termes de plan de jeu, parce qu'ils avaient bien ciblé qu'il fallait cibler Ekaperigin. Donc, avec la stratégie qui a été mise en place par l'ALM et Laurent Pluvy, a fait complètement déjouer l'équipe de Poitiers en utilisant beaucoup le tir extérieur. Donc, ce qui a permis à Évreux effectivement de dérouler leur
jeu. Tu parles du match 3 là ? Tu parles du match de samedi, là.
Même le premier match, hein, ils ont trappé. Même si Ekaperigin il trouve des solutions, mais si tu veux, pour moi, il y a eu un facteur, c'est que ils ont complètement sorti les joueurs de Poitiers de leur position favorable, que ce soit sur le premier et sur le dernier match. Très honnêtement, j'ai été même surpris de voir comment ils ont perdu à Poitiers. Donc personne n'y était, on le saura pas, mais dès l'entame du premier match, bon, c'était quand même une équipe qui était vraiment à portée de d'Evreux. Ce qui est néfaste, c'est qu'ils perdent Niang sur le premier match.
Bon, Poitiers, en fait, l'une des raisons aussi, c'est qu'ils ont économisé beaucoup Pape, qu'elle a pris un vilain coup, ouais. Et voilà. Et c'est
non,
aussi,
mais voilà,
ils n'ont pas joué leur carte à fond.
Ouais, qu'en plus, le match précédent, sur le premier, ils perdent Niang. Donc, effectivement, avec Pape diminué, bon, tu es obligé un petit peu de réduire tes rotations, surtout sur le secteur intérieur. Et c'est vrai que après t'as le deuxième match en espace de deux jours plus le voyage derrière, donc c'est vrai que c'était, je pense qu'il y a eu une équipe d'Evreux un peu émoussée, voilà, des réajustements par rapport à la blessure de Pape Bey, mais bon, je pense que c'est mérité et là on va avoir une très très belle série face à Boulazac.
J'allais dire un sacré coaching quand même de Laurent Pluvy sur le match 3, hein, parce que le 5 qui démarre déjà, c'est pas du tout celui que tu attends, et c'est vachement.
Et c'est lequel du coup, Sébastien Pinault, ça?
Sébastien Pinault déjà qui rentre dedans, ils prennent des options très défensives avec Sébastien Pinault qui est pas réputé pour être un super défenseur. T'as notre ami Guillaume Constantin qui a commencé déjà très rapidement à combler les trous et tout ça, et ils ont fait des trappes magnifiques, c'était vraiment des super prises à deux. Et là, ça a été vraiment, je pense que c'est la défense qui a complètement surpris, sur un match 3 avec justement la fatigue et tout ce que tu peux avoir, faire ce qu'ils nous ont fait l'autre jour, avec une rotation en moins. Je crois que c'était vraiment un exemple de match.
Tim, toi qui as assisté au match 3, du coup, t'as pensé quoi du match en général?
Ben, c'est la première fois que je vois un match de basket pro et pro B, et je trouvais le niveau était tout à fait au même niveau que la première division universitaire aux États-Unis, ce qui est juste en dessous des professionnels. Donc c'était une très bonne qualité de jeu. Et justement, je seconde ce que dit mon ami Philippe, c'est que c'est vraiment dès le départ, la défense, c'est ça qui a gagné le match, parce que ça a mis l'attaque de Poitiers sur, ils étaient un peu pressés sur les shoots et tout ça, ils n'avaient pas vraiment à trouver un rythme, et donc je ne sais pas quel était leur pourcentage de tir, mais c'était pas très
bon. C'est une équipe qui marche vachement sur l'euphorie, en plus c'est un Poitiers, et c'est ce que disait Philippe quand il parle de ça sur le match 20. Alors ce match 20, je l'ai vu, mais beaucoup moins, de façon moins évidente que sur le match 3. Le match 3, c'est extraordinaire, il n'y a aucune zone de confort pour les mecs de Poitiers, ils shootent dans des conditions vraiment difficiles à chaque fois, t'as aucun tir donné. Il n'y a que Dorsey qui tire un peu son épingle du jeu en première période, mais sinon après c'est vraiment hyper, des mecs comme Guillard qui sont pourtant habitués et tout tout ça, ils n'arrivent pas. Et puis surtout, ce qu'il faut souligner aussi, enfin, ça, je pense que Philippe a vu la même chose, c'est que tu as un arbitrage, tu as trois mecs de pro A qui arbitrent, et là, ça te change le jeu, parce que tu n'as pas des fautes à la con qui t'interrompent.
Il n'y a pas de triche. Il n'y a pas de triche possible.
Voilà, c'est parfait. Voilà. Et donc, d'ailleurs, Guillard s'est fait sanctionner, comme il ne s'est jamais fait sanctionner dans toute la saison en Pro B, parce que c'est un mec qui sait s'adapter au placement des arbitres. Là, pour le coup, à trois, tu peux pas te planquer. Et quand tu fais des fautes, bah, les fautes, elles sont sifflées. Quoi. Donc là, ça a vraiment vachement nivelé. Ça a donné vraiment la possibilité au jeu de s'exprimer. Et le jeu d'Evro était vachement mis en place mardi.
Ce qui est, voilà, où sur ce match 3, on va peut-être continuer sur le match 3, vu que personne n'a vu le match 2. Et puis.
Pour dire une chose, là-bas, mes confrères de Poitiers là, qui m'ont dit que les joueurs de Poitiers avaient vraiment envie de briller chez eux, donc ils étaient super motivés. Il y avait un public de cinglés un jeudi soir, ce qui n'est pas facile, parce que quand on a vu qu'ici le samedi, la salle était loin d'être pleine, voilà, même s'il y avait la finale. Je parle le samedi. Il y avait beaucoup plus de monde mardi que samedi. Ouais. Et ça, bon, alors, ça
Ligue des Champions aussi.
Ligue des Champions, ouais. Enfin, bon, quand tu joues les playoffs d'une saison, Ligue des Champions, tu fais comme tout le monde, t'enregistres et puis tu vas regarder plus tard. Moi, j'ai vu la fin de la Ligue des Champions en allant en notre temps. Donc, voilà. Et tu dis qu'il y a un petit manque. Je dirais peut-être culturel, même si on est habitué depuis 7 ans à faire des playoffs. Je trouve que c'est quand même un peu dommage pour une belle de ne pas faire le plein, de ne pas avoir plus de maillots jaunes dans la salle. Enfin, toi, tout ce que tu vois d'ailleurs, je ne sais pas si vous avez vu le au Mans, les matchs, le Mans-Strasbourg, toute la salle est en orange, quoi. Et c'est pas plus sympa à porter l'orange que le jaune, mais voilà, les mecs, ils font l'effort de jouer le jeu. Ah, il y a un sponsor aussi qui aide aussi à fournir un maillot, mais là, l'idée du gilet jaune était, je dirais, c'était cheap, mais au moins, ça permet de le faire. J'ai vu trois gilets jaunes, je crois, dans la salle le soir, donc ça marche pas encore. Et je pense que cette culture-là, on l'a pas encore.
Philippe, tu relevais de manière intéressante que jeudi, ils étaient bouillants, Poitiers, ils avaient très envie dans cette rencontre. Moi, je pense sincèrement qu'ils sont venus samedi pas avec la même motivation en se déplaçant à Évreux, parce que c'était du plus-plus. Devin Dorsey, qui est quand même un formidable joueur, il avait pas été formidable dès la première rencontre à Évreux. À Poitiers, il s'en remet un peu mieux, mais il n'est pas encore magique. Il y avait des joueurs qui étaient déjà à la tête en vacances.
Il fait une bonne période. Ouais.
Voilà, bon, il y a surtout aussi l'entame de match d'Evreux. Sur le plan défensif, leur stratégie, elle a été au point, bien appliquée. Ils rentrent les premiers tirs. Drake, qui est le premier, il commence à prendre feu
dès le départ. Ça, c'est important pour Drake, je pense.
Voilà, c'est une belle série. Mais aussi pour l'équipe, tu t'envoies un signe très fort sur une belle de démarrer par un 12-2.
T'as Pierre-Etienne aussi qui fait meilleur match de la saison.
Tu pars avec les meilleures dispositions possibles. Et quand tu vois vraiment sur le premier match, que Philippe, tu dis la stratégie, elle n'est pas en place, mais là, on reprend les statistiques.
C'était moins flagrant
que le troisième, mais quand tu regardes là que sur 70 shoots, là, on a les statistiques sous les yeux, mais sur le premier match, ils font 70 shoots et qu'ils en prennent 32 à 3 points, ce qui est énorme. Et sur le troisième match, ils en prennent 33 sur 62. Donc, c'est là où tu vois que à un moment donné, c'est tu shootes dans de mauvaises conditions, tu le pourcentage il est beaucoup plus faible, à moins que tu t'appelles Golden State, mais on n'a pas une équipe comme ça.
On va pas s'étendre plus. Je pense qu'on l'avait dit dès le départ, c'était carrément à la portée de la LM. Elle a tenu son rang malgré cette blessure de Babacar et cet effectif amoindri de Poitiers, qui, on le rappelle, eux, c'était un bonus pour eux de se retrouver là. S'ils n'ont pas été bons aussi aux réussites, c'est lorsqu'ils gagnaient des matchs, c'était que la réussite passait aussi, parce qu'ils jouaient beaucoup sur shoot à 3 points. Maintenant, c'est un sacré autre morceau qui pointe le bout de son nez.
Pour en finir avec Poitiers, sincèrement, moi, j'ai vu aucune désolation à la fois dans les commentaires du match. Rudy Delhomme, qui est quand même un filou de première, qui nous fait croire qu'ils ont fait une belle saison, pas une très bonne, mais une bonne saison, alors qu'en fait, il a quand même 7 joueurs qui sont quand même très largement bons. Il fait jouer soi-disant c'est l'équipe la plus jeune et tout ça. Je conteste ce point de vue-là. Et puis voilà, je pense qu'ils étaient outillés. Ils ont largement de quoi rivaliser avec notre ami Rudy
joue bien du violon.
C'est du pipeau. Et puis il a les clés de la boutique et pour l'instant il en profite. Mais voilà, c'est vite.
Alors on passe à la suite. C'est demain soir, Boulazac.
Jeudi soir et peut-être samedi soir.
Philippe, pour toi qui a joué dans les deux clubs, oui. avec des fortunes diverses, on dira.
Ouais, mais
je sais que tu en gardes un bon souvenir quand même.
Mais tout aussi enrichissant.
Mais tu gardes des bons souvenirs quand même et des contacts quand même avec pas mal de gens du club là-bas.
Quel est le coach que tu ne remercies pas dans tes au revoir en fait? C'est celui-là.
C'est celui-ci.
Voilà, ouais, je pense. C'est bien ce qu'il semblait. Ouais, mais bon.
C'était le même.
Non, il n'est plus du tout de ce milieu. La roue tourne.
Exactement. Et dès que tu fous Philippe Da Silva dehors, tu sais très bien qu'un jour ou l'autre, ça va te revenir dans la gueule. Donc voilà.
C'est quoi les clés de ce match, de cette série pour toi?
Clairement. Tu le dis très bien. C'est effectivement. En ayant la blessure maintenant de Niang, effectivement. Je pense que Boulazac, par rapport à leur effectif, ils ont 4 joueurs intérieurs, un intérieur qui est quand même relativement dominant, un seul.
Qui a fait mal 2 fois à Burton en plus.
C'est le seul qui a fait mal à Joe.
Ouais, est-ce que du coup les 3 arbitres, ça peut pas changer aussi la donne dans leur confrontation?
Oui, mais peut-être. Ouais. Mais le problème, c'est que contrairement à l'ALM, c'est que ils ont 4 intérieurs Boulazac. Et l'ALM, on n'avait que 3, avec un petit peu de
Drake
sur le poste et Guillaume maintenant sur le poste 4. Donc je pense que sur la longueur, en termes de solutions sur le secteur intérieur et en termes d'usure, tu vois, parce que je pense que ils vont vouloir user beaucoup Burton. En plus de ça. Moi j'ai eu la chance de voir le premier match ici de Boulazac où il n'y a pas eu photo. Évreux les a tués. Le meneur Vaughan était complètement hors condition. Là il récupère quand même Tweety Carter qui est loin d'être un manchot.
Ouais, il est fort.
Voilà, donc je pense qu'ils vont vouloir le cibler déjà Burton défensivement, c'est-à-dire à l'amener loin de la raquette, à jouer beaucoup de pick and roll, et c'est vraiment pas sa tasse de thé. Donc effectivement, je pense que les rotations vont peut-être être favorables à Boulazac.
Je suis d'accord avec ce que dit Philippe. Le cas Hazel va être un vrai problème à résoudre. Maintenant, si Évreux joue, prend la gorge ses adversaires comme il l'a fait sur le match 1 et surtout sur le match 3, on a vu que Boulazac, ils avaient explosé. Alors, mais c'était pas la même équipe, c'était pas la même condition. Mais Boulazac, la première fois qu'ils sont venus, ils étaient
Mais là, ils sont du tout. Sur une autre dynamique, Philippe. Ils ont connu une période en fin de saison où ils ont pas été très loin de la 9e, 8e. Ils finissent finalement bien placés. Ils arrivent sur le premier match tour de play-off contre Nantes, qui est loin d'être une équipe évidente à manœuvrer, qui les sweep 2-0. Donc en termes de fraîcheur, en termes de solution de banc, c'est une autre tasse de thé qui attend l'ALM.
Est-ce que c'est pas clairement c'est demain que tout se joue, quoi?
Demain on perd, je pense que jeudi c'est mort, fini.
Parce que jeudi c'est une des salles les plus chaudes.
Et je pense que même si demain on gagne, on reviendra samedi parce qu'on aura beaucoup de mal à aller gagner là-bas.
Le match est important.
Je sais pas si c'est possible dans le milieu professionnel, mais presque tu gagnes demain et tu vas à la cool jeudi.
Tu peux pas, parce que je pense que quand tu joues à la cool, tu te laisses plus facilement encore. D'accord. C'est-à-dire que tu n'étais pas dans l'investissement. Je pense que ça sera un match de travail où ils essaieront de jouer de tricher.
Alexis Tang, il finit meilleur éval de face à Nantes, la deuxième rencontre, qui les qualifie directement en demi-finale face à nous. Un joueur qui jouait du côté de Bourg-en-Bresse par le passé avec Jérôme Sanchez et Kevin Corr aussi qui constituent l'effectif. C'est un joueur qui est incroyable parce que c'est un géant, il est très grand, il est très mince, il a un superbe shoot, il fait 4 sur 4 à 3 points. C'est un joueur qui est un peu apathique, mais en fait qui est capable de gros cartons. Alors on parle bien sûr des US, mais ils sont bien équipés en français aussi.
L'absence de Babacar va être important parce qu'il peut défendre dans ses cartons, voilà. Que là ça va être beaucoup plus dur pour Pape. On voit que Pape il a du mal à défendre les mecs mobiles, il prend des fautes très rapidement et ça va être difficile effectivement. Il y a ses facteurs réussite après, hein. Le mec il est dans une salle qui n'est pas forcément sa tasse de thé non plus, hein. L'avantage du terrain à mon avis c'est ce qui peut compenser. Il y a la fatigue du voyage et tous ces machins là. Donc c'est pour ça que le match de demain soir,
les gilets jaunes et les claquettes, et même dans les têtes.
Des petites infos, il y a du
on a le droit d'être
je peux vous dire,
j'ai eu le CSA, on a le droit de déborder.
Alors, ouais, c'est cool, merci,
c'est bien. Alors, donc bon, alors on a eu l'information qu'on a sortie là, il y a 10 jours de ça, qui était une information vérifiée, et d'autant plus vérifiée qu'elle a été annoncée à la fois par le président et la directrice, à savoir que c'était Fabrice François qui allait avoir l'honneur, je dirais, de diriger l'équipe première l'année prochaine sur un projet donc qui était forcément peut-être un petit peu moins ambitieux, mais peut-être plus sur la longueur et avec aussi une façon de travailler qui ressemble un peu à ce qu'on fait à Évreux, c'est-à-dire c'est un peu de la bricolette, hein, avec un rôle renforcé pour Sylvain Granca à l'intérieur et puis éventuellement une resignature de Guillaume Constantin pour continuer à créer un lien entre le coach et le terrain. Et puis bon, les joueurs dont on parlait, c'était surtout Bill Walker, Pape Bey et le petit Pino qui auraient été re-signés. Voilà, une petite ossature, plutôt des mecs, des benchers, hein, des mecs qui viennent du Mans, pas forcément les premiers. Donc tu disais que c'était un petit peu moins ambitieux, ça a surpris pas mal de gens, mais on savait initialement que Fabrice Lefrançois était intéressé par le poste. Et on s'était dit, bon bah voilà, ils veulent faire sur un autre projet, peut-être qu'ils attendent aussi qu'un jour que notre fameuse salle arrive et que si elle arrive pas rapidement, on se contentera de cette salle-là en National 1 ou en National 2, hein, voilà, c'est aussi les dangers qu'il y a un jour ou l'autre, il peut se passer ça. Et ce qu'on pouvait redouter, d'ailleurs c'est ce que des confrères nous ont dit aussi, c'est que le syndrome Drouot, qui est le Drouot, pas Pierre-Étienne, mais le coach du Havre, qui a eu une équipe, qui est un mec très très bon, à mon avis, Philippe pourra en témoigner, parce que je crois que Philippe le sait, mais qui a pas réussi à avoir l'équipe qu'il souhaitait, enfin avoir le fonctionnement d'équipe qu'il souhaitait, et qui a pas eu autour de lui les gens qui pouvait l'aider à reconstruire l'équipe. Et puis, il n'avait pas de moyens. Et donc, ils ont vécu une saison galère. Et cette saison galère, à Évreux, elle nous pend au bout du nez un jour ou l'autre, quoi. Donc ça, c'est un truc qu'il va falloir vraiment un jour, il va falloir se déterminer. Qu'est-ce qu'on veut faire de ce club-là? Est-ce qu'on veut juste faire une vitrine et rester en Pro B? Sachant qu'au bout d'un moment, ça prendra plus, mais, voilà. Donc, ce petit, je savais que t'allais venir mon tour.
Il reste une minute.
Voilà. Donc, Fabrice Lefrançois, alors qu'on lui a proposé le poste, est revenu sur sa position. Je pense qu'il y a des doutes sur. Il craint peut-être justement la saison d'après Laurent Pluvy, et donc il a préféré reglisser vers le centre de formation. Ce qui fait que ça ne sera pas lui qui sera à la tête l'année prochaine. Je pense que Fabrice fera partie du staff l'année prochaine, réintégrera le staff. Laurent Pluvy l'avait un peu mis de côté parce qu'il n'y avait pas eu un contact intéressant entre les deux hommes au départ. L'année prochaine, Fabrice Lefrançois réintégrera le banc avec un autre coach. Ce ne sera pas donc Laurent Pluvy, ce ne sera pas Philippe Da Silva, qui est pourtant postulé, mais il a tout fait pour l'avoir.
Ça ne sera pas Kevin Vollard.
Ce ne sera pas Kevin Vollard.
Ce ne sera pas Guillaume Arakelo.
Exactement.
Ce ne sera pas Philippe Namiste.
Et ça ne sera pas Philippe Davis qui est parti à Chalon, alors qu'il aurait intéressé beaucoup, beaucoup Évreux.
Et très sincèrement, je pense que ça aurait bien fonctionné avec Philippe pour l'avoir eu au téléphone.
Mais qui était à Chartres,
il m'en a parlé. Ouais. C'est vrai qu'il y avait eu un bon feeling entre Elsa et le président Rostol. Mais pour une question de timing,
il a signé un peu plus tôt. Il y a plusieurs pistes qui restent d'actualité. Il y en a deux, on va dire deux pour l'instant. Enfin, trois.
Allez.
On va dire trois. Et puis, alors.
Lesquels?
Alors, je vous dis.
Jean-Marc Crédit.
C'est bon, ça.
Quel âge historique,
toi, ce serait énorme. Ça la quête douloise.
Quand tu vois que Zidane, il peut quitter faire gagner le truc, tu dis, voilà, pourquoi pas Jean-Marc Crédit.
Calme.
Non, le retour de Jean-Paul Rabaté.
Non,
il y a Jean-Marc Duprat qui est positionné, mais qui est plus sur un projet pro A, donc ça va dépendre aussi de la fin de saison. Fabrice Coursier, qui est toujours sous contrat pour l'instant avec Orchi, mais Orchi a des gros problèmes financiers et Fabrice n'a pas de plan B pour l'instant, et je sais que le club l'a contacté. Fabrice est très honoré qu'on pense à lui, donc voilà, ça c'est une autre possibilité. Et en ce moment, on entend parler d'un vilain copieur, celui qui copiait Philippe Da Silva en proie quelques années plus tôt. Voilà, on entend parler d'un certain Laurent S.
Un requin un peu.
Un requin.
On n'en fait pas des dauphins.
c'est lui qui est dans le. Mais bon, on verra ce qu'il y aura. Il y a Laurent Zaknoun qui est disponible à Vitré. Et il y a aussi Tim Redon qui a été coach pour l'équipe fille de Washington University in Missouri. C'est ça?
Oui, c'est ça.
on va profiter, on déborde pour déborder. Oui. Hein. Du coup, Tim, un peu la NBA, vous regardez, tu regardes ce qui se passe en ce moment outre-Atlantique, forcément ou pas, parce qu'on n'est pas obligé d'être américain, d'être fan de NBA. Hein.
Non, c'est vrai. Récemment, la NBA est devenue beaucoup plus intéressante avec la montée de Steph Curry et des Warriors. Alors, tout le monde, j'habite un peu sur la côte ouest, alors là, c'est la folie. Parce qu'on attend bien qu'ils regagnent, ils établissent une dynastie comme les Bulls ou comme les Lakers dans le passé.
Alors, on était très fans des Bulls à l'époque, on s'est connus et on est resté un peu là-dessus, nous, sur le.
C'est fort parce que là, mener 3-1, ils reviennent, ça joue ce soir à la maison.
Demain soir ou ce soir?
Ce soir.
Ah, c'est ce soir, c'est cette nuit. Ah, c'est cool.
3h du matin.
Donc voilà, cette nuit nous serons au travail devant notre télévision.
C'est possible? Vous voyez les choses comment, toi, Philippe? Par exemple, tiens, on reprend un film. Moi aussi.
Ah, moi, je pense aussi.
Ouais. Et Tim, ils reviennent?
Ah oui, tout à fait.
Par contre, après, sur Cleveland, je suis pas certain. Je sais même pas qui a l'avantage du terrain en fait cette année. C'est qui?
C'est
l'avantage du terrain est déterminé par la position, parce qu'avant c'était un coup l'est, un coup l'ouest.
Non.
D'accord.
À la saison.
Donc voilà, mais avant ça, il y aura il y aura un match important demain soir. Et moi, celui-là, il me fait encore plus vibrer. Le match est Évreux-Boulazac.
Ça va être un gros match. Là, c'est un vrai combat. Là.
Avec un coach qui est adorable. Hein. Moi, j'en ai fait, je voulais dire qu'avant tout, malheureusement, malgré les conditions et tout, sur le top 8 de départ, j'avais fait Boulazac mon favori.
Ah, Antoine Michon, c'est un bon gars.
Hein. Antoine Michon, c'est un super mec. Il mérite ce qui lui arrive parce que c'est un gars qui est vachement basé sur l'humain. Il prend pas que des mecs hyper physiques. Vous allez voir, t'as des shooters, t'as du bien, c'est un des rares gâchettes encore que tu trouves dans le championnat. Et il est aussi très intéressant. Et par contre, bon, effectivement, il a un effectif un peu plus riche que celui de Laurent, et je pense que ce que fait quand même Laurent Pluvy, hein, quoi qu'il fasse, c'est exceptionnel ce qu'il a fait cette année.
C'est pour ça qu'il est relou de se casser.
Et en parlant du beau temps, c'est un parfait temps pour regarder du basket.
Exactement.
Je vais parler juste pour clore, il nous reste une minute d'un parfait temps, c'est les phases finales qui approchent au rugby avec 2-3 infos toutes chaudes si vous n'avez pas suivi. La descente en fédéral 1 pour raisons administratives et surtout financières de 3 clubs historiques du rugby français, à savoir Biarritz, Narbonne et Bourgoin, rétrogradé par la DNACG. Voilà.
Possibilité donc, d'appel encore.
Ouais, possibilité ouais. d'appel, mais bon. Bon, voilà, ça va être compliqué quand même.
Biarritz bientôt alors.
De l'autre côté. Vision. De l'autre côté, en pro D2, Bayonne qui joue le match d'accession contre Aurillac, ça va être dans les jours qui viennent, pour se disputer le dernier ticket pour le top 14. Et puis le dernier, la petite dernière info qui a été plutôt sympa toute la semaine, sur fond de polémique du côté de l'Altrad Stadium, c'est la non-sélection de François Trinduc pour ce match, pour ce dernier match. Montpellier recevait Toulon, match qu'ils ont d'ailleurs remporté, et Jack White, l'entraîneur sud-africain de cette équipe sud-africaine, en dirons-nous, vu qu'il y a 3 Français dans l'effectif en ce moment qui jouent, 2 voire 3, n'a pas retenu l'ouvreur, qui a commencé sa carrière en Benjamin à Montpellier et qui quitte ce club. Il n'était même pas sur la feuille de match. Le capitaine de Montpellier, qui n'est autre que son copain avec qui il joue depuis minime, alors la personne de Fulgence, Wodriago, est monté un peu au front, a critiqué l'entraîneur, a dit c'est pas normal qu'un mec comme François, qui a fait la montée de Pro D2 en top 14, qui a rendu ce club européen, et que c'est, il est monté. Il y a eu un gros tollé dans le rugby français quand même. Que les joueurs du cru et qui sont attachés un peu à leur club ne soient pas un peu considérés par des entraîneurs extérieurs. Il a eu le droit à ses adieux, mais ce n'était pas sur le terrain. C'était à la fin du match et une grosse standing ovation qui a duré un bon moment et beaucoup de larmes dans les tribunes. Et sur le terrain, Altrad est en train de se mettre tout le stade à dos, tous les supporters. Il va peut-être gagner des titres, mais il n'y aura peut-être plus grand monde dans les tribunes. Voilà.
C'est dommage parce que pour des joueurs de club, il y en a de moins en moins. Et quand on a un, j'espère essayer de le garder, de faire en sorte de lui au moins lui offrir une belle sortie.
Ouais, une belle sortie.
Et ça, c'est moche.
Allez, et ben on ferme ce Café des Sports qui a bien débordé. On vous dit à mardi du côté de la salle Omnisport pour en jaune et avec du jaune si vous voulez avant.
Tous poussins.
Pour encourager la LM.
Un petit bonjour, parce qu'on nous écoute. On nous écoute du côté de Reno, dans le Nevada. Donc on souhaite un bonjour à toute la famille Redon, à savoir Madame Redon, hein, Madame Christelle Redon et ma filleule Juliette, Anna et Camille. Voilà, c'est très important parce qu'on est écoutés là-bas, vous savez.
Ah, merci.
C'est important.
Bye bye.
Ciao.
Pédalage et défonçage sont les mamelles du Tour de France, alors il se défonce car la ligne est encore loin.